fin de ce journal dans un instant sur RFI 8 milliards de voisins.
Vous écoutez La Clé des Ondes sur 90.10 et sur laclédesondes.fr. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
Trouver son groupe affinitaire et préparer la, enfin, c'est un peu pour préparer l'action de demain. On a une autre projection de film à 17h qui est Toxicilly sur le silicium. Donc pour les gens qui sont encore sur le camp ou qui rentreront peut-être de bonne heure, vous avez des choses à faire sur le camp, vous avez la cantine qui s'active pour... Si vous avez faim, il commence à être midi, voilà. On a reçu des messages. On va faire une petite pause musicale et ensuite on va écouter vos messages. Je cherche une petite chanson. À vous. Ah ouais, on a une dédicace. On a une dédicace. À Sacha qui est paraît-il quelque part sur le camp. On se demande bien qui que ça peut être. Et on va vous envoyer cette musique dans un petit instant. C'est donc une dédicace pour Sacha.
C'est un peu une déclaration que je te fais, car il est temps, je crois, yalala. Quand certains rêvent de nation, de football ou de vrai combat, yalala, yalala. Moi c'est vers toi que je tends les bras quand ça ne va pas. Ma cervelle et mes sentiments, je te les donne, ils sont pour toi. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Mes premiers frissons et mes premiers coups sur les doigts. Mais pour un mot, une chanson, j'aurais donné n'importe quoi. Malgré tous mes démons, les menottes que j'ai au bras, si je te quitte pour de bon le lendemain, je cours vers toi, le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Même si je sais que tu n'es pas le remède ni la solution, tu n'es qu'une attelle à mon bras. Ce petit rien qui nous lie aux autres quand ça ne va pas, un ultime langage de survie qui remet le monde à l'endroit. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, yada, yada, la, 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 tu es mon chez moi, yada, yada, la, 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 la.
Et un grand merci pour ce genre de dédicace, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Moi, par exemple, petite dédicace à une autre personne qui s'appelle Sacha, avec qui j'ai dansé hier soir. Merci beaucoup de m'avoir appris à danser sur le bal folk. Et à très bientôt.
Et donc, on a reçu des nouvelles d'une de nos camarades méga radioteuses qui est arrivée au point de rendez-vous du pique-nique. Donc, on vous envoie son petit message.
Allô, la méga radio. Ben, petit message depuis Mixé Auxange, où nous venons d'arriver avec des gens du convoi de Vivonne. Et après, donc on est sorti du parking du Super U, là on s'est tous fait contrôler. Pour ma part, avec notre voiture, on a eu un flic très sympa, je tiens à souligner cette exception, qui rigolait beaucoup de savoir ce qu'on nous avait confisqué il y a quelques jours. Je lui ai même montré mon couteau à huîtres que j'avais dans ma boîte à gants, en lui disant qu'en habitant en Poitou-Charente, on a toujours un couteau à huîtres dans notre voiture. Et il a rigolé, il a dit effectivement, je comprends, je suis comme vous. Et puis il a dit, bon, voilà, moi je m'en fiche, vous n'avez pas de grand chose dans votre voiture. Et puis il a dit, oh là là, bah, vraiment, bravo la France. Il ne comprenait pas le métier qu'on était en train de lui faire faire. Voilà. Par contre, deux voitures à côté de nous, et bien là... un autre policier a confisqué des boules-quièces, a confisqué des sardines de tente, a confisqué je ne sais plus quoi d'autre de complètement absurde. Tout ça parce que le propriétaire du véhicule avait des dreadlocks. Enfin, on pense que c'est une raison. Sinon, voilà, après ce contrôle, ben, on est tous repartis pour une vingtaine de minutes. Et puis nous voilà arrivés. On marche vers le lieu du pique-nique au Pré-Sec. On est super content d'être arrivé comme ça. Et puis on a appris que, pareil, les gens du village de l'eau ont réussi à démarrer. Donc on est super content et on les attend avec hâte pour faire un super pique-nique. À tout à l'heure.
Et on est toujours en direct du village de l'eau sur la méga radio. On va probablement bientôt faire une petite pause du midi. On continue de recevoir vos messages. On va prendre le téléphone avec nous au cas où il y aurait une urgence et qu'on doive reprendre le direct pour vous annoncer des choses. On a un peu l'impression que tout le monde est soit déjà en train de pique-niquer, soit en route vers le lieu de pique-nique. Donc on vous souhaite un bon appétit. On va vous laisser en compagnie d'un enregistrement qui, je crois, date du précédent rassemblement. Non, ça a été enregistré cette semaine. Bon, un truc qui date du début de la semaine et qui est une table ronde sur les luttes pour l'eau en Amérique latine, c'est ça? Et voilà, les luttes pour l'eau en Amérique latine. Restez branchés sur la méga radio. On continue de recevoir les nouvelles que vous nous envoyez au 07 51 33 26 71. 07 51 33 26 71. Et on a hâte de savoir ce que l'après-midi nous réserve. À tout à l'heure.
La radio éphémère et vénère des luttes du Marais Poitevin.
Qui est assez connu et partagé, au moins du coup depuis le 25 mars, pour l'ensemble du mouvement environnemental, ce qui n'est pas déjà le cas avant. Mais on a donc de plus en plus de violences policières, du coup, et une répression qui se déplace depuis des gardes à vue massives vers, du coup, une dissuasion avec un harcèlement, comme on peut le dire en ce moment autour du village, sur les personnes qui viennent à la mobilisation et qui vont avoir un tas de poursuites ou un tas de pressions pour des choses qui sont complètement autres, c'est-à-dire la plaque d'immatriculation qui est un peu abîmée, les boules de pétanque qui traînent dans le fond de la voiture parce qu'on a toujours un jeu au cas où, des choses-là qui sont donc à la fois complètement personnelles et en même temps collectives, dans le sens où ce harcèlement-là qui a lieu autour des mobilisations est bien là pour dissuader les personnes de venir. Tout comme du coup les mutilations et les violences policières que l'on vit pendant les manifestations qui sont bien là, pas uniquement pour dissuader des personnes et les empêcher de faire tel ou tel geste pendant une manifestation, mais bien aussi pour traumatiser et essayer de faire peur à ces personnes-là, du coup, qui voudraient ensuite continuer de se mobiliser, mais aussi aux personnes qui sont autour, leurs proches, et toutes les personnes qui auront vu les images et qui auront été marquées par ces images-là. Un autre côté de la répression qu'on peut évoquer en France, qui est de plus en plus visible, c'est une forme de répression qu'on pourrait appeler administrative. On a le souvenir du coup des soulèvements de la terre qui ont été dissous l'année dernière et qui ont pu obtenir gain de cause à la fin au Conseil d'État, mais ça a été une menace du coup qui a été rappelée à l'ensemble du mouvement écolo français de la possibilité de réprimer aussi au-delà de la garde à vue, au-delà de la confrontation avec les forces de l'ordre, mais que le fait de se revendiquer d'un mouvement aujourd'hui, de se dire écologiste et de s'investir, de militer pour ça, pouvait être vu comme une forme de choses qu'on peut se voir reprocher. Et donc, du coup, voilà, qui est encore une manière de plus de nous dissuader. Une fois que ce constat est fait, je crois que la définition de la répression au sens politique, du coup, est la chose peut-être qu'on a plus envie de discuter aujourd'hui, que cette volonté de dissuader les personnes de s'engager, de mobiliser. Et ça peut paraître une banalité, mais le maintien de l'ordre dans une société écocidaire ne peut être que l'utilisation de la violence pour maintenir cette société écocidaire, et qu'on ne peut pas s'étonner derrière d'une certaine violence qui est prise au fur et à mesure que le mouvement écolo et que nos actions sont de plus en plus efficaces ou de plus en plus impactantes vis-à-vis des projets écocidaires, des projets imposés et polluants. Et que dans cette dynamique-là, le recul que l'on peut prendre sur le vocabulaire qui est de plus en plus utilisé par les politiques, puis repris dans les médias, ça nous faisait sourire. Il y a un an et demi, lors de Sainte-Soline 1, quand Darmanin a commencé à utiliser l'expression d'éco-terrorisme, qui à ce moment-là, du coup, était une nouveauté pour nous, et qui aujourd'hui semble être la banalité qui justifie toute forme de répression sur les mouvements écolos, puisque les terroristes, on n'a pas d'empathie à avoir pour ces gens-là, puisque les terroristes, du coup, on va déshumaniser et justifier toute forme de dérive qu'il pourrait y avoir derrière. La mécanique du coup du bon, du mauvais écolo, du bon, du mauvais manifestant. Le décalage pour appuyer du coup cette notion de terrorisme qui a eu lieu, qu'on a vu pendant la dissolution, de vocabulaire normalement en termes de droit, on a des dégradations d'un côté, du coup, contre des objets, contre des biens, qu'ils soient légers ou lourds, à ce sujet. Et on a les violences qui sont contre les personnes. Aujourd'hui, la plupart des textes antiterroristes s'appuyaient du coup sur des risques de violence ou des menaces ou autres de violence contre les personnes. Ce qu'a posé le ministère de l'Intérieur avec la dissolution de l'année dernière, et qui là où on aurait pu se trouver victorieuse d'avoir gagné du coup ce recours au Conseil d'État et d'avoir fait tomber la dissolution, c'est que malgré tout, le Conseil d'État, tout ce qu'il a dit, c'est alors oui, on peut appeler de manière indirecte à les dégradations, et donc du coup ça ouvre la voie à beaucoup de dérives derrière, de juste relayer des gestes qui ont été faits pendant une manifestation, c'est encourager de manière indirecte les délits qui auraient été faits pendant cette manifestation, et que les violences contre les biens sont considérées comme des violences. Et donc aujourd'hui, la plupart des textes qui ont été écrits du coup pour le terrorisme deviennent valables pour lutter contre toute forme de désobéissance civile qui va toucher les objets, et donc ce qu'il a répété ensuite à la commission d'enquête parlementaire, justement sur l'orgue, enfin, qui étudiait les mouvements qui avaient eu lieu autour du 25 mars l'année dernière. Donc pour lui, du coup, le fait qu'il y avait des menaces de dégradation le 25 mars justifiait bien que les forces de l'ordre fassent usage de toute forme de violence nécessaire pour empêcher ces dégradations, que lui appelait également des violences. Cette notion de terrorisme, la déshumanisation qu'elle permet, la carte blanche qu'elle donne aux forces de l'ordre et que l'on voit dans le mouvement écologique et que l'on voit aussi aux frontières, du coup en France, de plus en plus où c'est l'armée maintenant qui gère et qui régule les frontières grâce à des exceptions antiterroristes qui avaient été écrites en 2015 suite aux attentats et qui depuis s'ancrent du coup dans le quotidien, dans le droit commun. et qui se répercute donc sur les violences et sur la surveillance que peuvent vivre les mouvements sociaux et écolo en France. J'aurais pour faire la transition et avant de passer la main, aimé rappeler à quel point des fois on peut se sentir amnésique dans le mouvement écolo français, notamment vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que la surprise du 25 mars, de ce qui a été vécu là-bas, de la violence qu'on a vécue là-bas, c'est faite après les Gilets jaunes, c'était il n'y a pas si longtemps. 2 ans de mouvements sociaux qui ont été particulièrement violents aussi, qui ont vécu ce décalage médiatique aussi de criminalisation du coup et de caricature pour justifier la violence des forces de l'ordre pendant ces mouvements-là. On l'a vu aussi derrière dans le passé strictement écolo également, enfin Notre-Dame-des-Landes du coup, les expulsions de 2012 et 2018, la violence qu'il y a eu à ces endroits-là, Christophe Malvin dans les années 80, le mouvement antinucléaire. Et du coup déjà les mutilations et le meurtre qu'il y avait eu pendant une mobilisation avec 60 000 personnes à ce moment-là aussi. Et on pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir avoir une culture et continuer de garder une contextualisation de la violence que l'on vit, qu'elle s'intègre dans une violence systémique aujourd'hui beaucoup plus large, que j'évoquais les Gilets jaunes, que le mouvement retrait plus récemment, que les émeutes du coup et le soulèvement des quartiers, la mort de Naël nous rappelle aussi, ce qui nous fait autant de force dans les mouvements sociaux et dans le lien que l'on a entre tous et la diversité qui compose du coup aujourd'hui les mouvements sociaux en France, qu'ils soient environnementaux. Ou sur tous les autres angles de lutte que l'on peut avoir, c'est bien la répression qui nous unit quand la violence, elle, de l'État, nous menace d'être trop efficace. Et je vais ensuite passer la parole sur l'international, sur ce qui est vécu ailleurs, mais je trouve particulièrement riche aujourd'hui de pouvoir avoir ces échanges-là pour garder en conscience le mouvement répressif au sens beaucoup plus large que juste la partie qu'on pourrait avoir ici sur les bassines.
Merci. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Manuel Arroyo. Y soy vocera del Movimiento Nacional por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Modatima.
Alors, je vais d'abord con
elle. Elle est de Modatima, le mouvement de défense pour l'accès à l'eau, à la terre et à la protection de l'environnement au Chili. Hablarles de dos aspectos específicos. Lo primero tiene que ver con la situación de criminalización en general que se vive en Chile.
Je vais parler de deux aspects particuliers. Le premier a à voir avec la criminalisation de... J'ai pas entendu la fin.
Especialmente después del 4 de septiembre del 2021, en que se rechazó una constitución ecológica.
Surtout après le 4 septembre 2021, où était rejetée la constitution du Chili.
La ultraderecha tomó mucha fuerza.
L'extrême droite a pris énormément de force.
À travers de cette idée de fabrication d'un consentement ou d'un sentido commun.
À travers la fabrication d'un sentiment commun.
Se instala la idea de la seguridad como eje principal, s'installe la idée de la sécurité comme axe principal de la acción del gobierno.
De l'action du gouvernement.
D'un gobierno progressiste.
D'un gouvernement progressiste.
Pero que en la práctica.
Mais qui, dans la pratique.
Ha hecho suyo el discurso de la derecha.
Et qui finalement a repris à son compte le discours de l'extrême droite. De la droite.
Y hoy día vivimos en un país donde el discurso de la seguridad y la represión es central en la agenda política.
Et aujourd'hui, nous vivons dans un pays où le discours de la sécurité est devenu central dans ce pays.
Et la répression. Y ello ha generado criminalización de la migración.
Otra vez.
Ha generado criminalización de la migración.
Cela a généré la criminalisation de la répression.
De la migración.
De l'immigration.
Y también de la pobreza.
Et de la pobreza.
Por ejemplo,
por ejemplo,
se han allanado tomas de terreno de vivienda o tomas de vivienda.
Ils ont pratiqué les prises de terrain et de maisons.
Se han aplicado leyes de seguridad interior del Estado contra el pueblo mapuche.
Ont été appliquées des lois de contre l'État et contre le peuple. Contre le peuple. J'ai perdu l'idée. Pero, diga una frase completa, porque si corto cada vez, me pierdo la idea. Sigue la idea, la frase total. Sí, sí.
Diga.
Es que a mí también me cuesta concentrarme. Sí. Dile tu frase y después la voy a traducir en total. Más fácil para mí, tener la idea.
Vale. Empecemos el tiempo de nuevo. Entonces, hoy día, ¿no? Vivimos en un país en que pese a que el gobierno es progresista, la ultraderecha ha tomado tanta fuerza en la agenda que el sentido común y la agenda del gobierno principalmente es la seguridad y la represión.
Oui, aujourd'hui nous vivons dans un gouvernement où la répression et la sécurité donc est devenue un des axes principaux un des axes principaux.
Entonces, principalmente respecto de las luchas ecológicas, vemos hoy día, ¿no?, que la agenda del gobierno ha sido la mantención de un estado de excepción en territorios indígenas.
Nous voyons que maintenant, en particulier sur la lutte écologique, l'agenda, le calendrier du gouvernement a été de passer sur la répression des terres indigènes.
En ese sentido, vemos hoy día cómo las grandes corporaciones forestales, por ejemplo.
Y en ese sentido, on voit cómo las corporaciones, las grandes corporaciones forestales,
tienen hoy día, son dueños de grandes extensiones de terreno.
Ils sont aujourd'hui propriétaires des très grandes extensions de terrain.
Que han sido usurpados a los pueblos indígenas históricamente.
Que se ha formado parte de la usurpación de pueblos indígenas y nativos.
Entonces tenemos a las policías y al ejército en algunas regiones como la nuestra.
Y como ça, y a la policía y en ciertas regiones, même y a la armée.
Cuidando los intereses de las empresas forestales.
Qui prend soin des lobbies forestiers de Chili.
Cuidando los intereses de las empresas hidroeléctricas.
Y que prend aussi atención des lobbies des entreprises hidroeléctricas.
Presentando continuamente demandas, querellas contra líderes mapuches y líderes ambientales.
Y que constamment ils présentent des demandes, des problèmes administratifs au peuple indigène.
mediante leyes como el hurto de madera, la ley de seguridad interior del Estado.
Et ils fabriquent des lois pour embêter la population.
Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2014.
Chile, il a été condamné pour la Corte des droits humains de l'année 2014. Des droits humains. Merci.
Y por la utilización de estereotipos racistas contra el pueblo mapuche en la aplicación de la ley antiterrorista.
Pour l'utilisation du peuple mapuche dans la loi, hermano, pour l'obligation de la loi antiterroriste
contre
le peuple mapuche,
utilisando prejuicios racistas,
en utilisant des préjugés racistes
uh-huh.
Y estereotipos
para criminalizar la lucha del pueblo indígena por la tierra.
Criminaliser la lutte du peuple mapuche, ouais.
Ante eso, ¿qué hacemos?
Devant ça, qu'est-ce qu'on fait?
Uno, bueno, yo soy defensora penal, entonces estamos continuamente sacando a gente de la cárcel.
Elle il est dans, les, dans la défense pénale et donc ils sont en constant à sortir des champs de prison grâce à son travail.
Y también continuamente nos formamos en seguridad.
Et aussi ils sont en train de se former constamment pour la sécurité, dans la sécurité.
Porque gran parte de las condenas son por los teléfonos, las conversaciones telefónicas.
Parce qu'il y a une grande partie des condamnations de la police qui sont faites grâce au téléphone.
Uh-huh. Entonces, bueno, creo que el hecho de que hoy día los gobiernos puedan ser progresistas o que no haya un primer ministro de ultraderecha no significa que el fascismo no esté acá.
Donc aujourd'hui, même si le gouvernement c'est pas de l'extrême droite, ça implique pas que ils sont dans un régime fasciste.
Porque yo vivo en una región donde estamos en estado de excepción hace dos años. Sí.
Il habite dans une région dans laquelle ça fait deux ans qu'ils sont dans une état de site.
Pero nunca me habían revisado la ropa de mis hijas y mis cosas hasta que llegué acá.
Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient jamais tâté, on dit, regardé dans les habits et dans les corps, les habits de sa fille et d'elle-même.
Y para mí también fue muy fuerte que mis hijas vieran a la policía con metralleta revisando sus juguetes.
Et pour elle, c'était vraiment très fort, une image très forte, le fait de voir que la police, avec des mitraillettes, ils ont été en train de fouiller sa fille.
Entonces, el fascismo está mucho más adentro de lo que creemos, la represión también.
Et de cette façon-là, on peut voir comment la represión. Y on est dans une labor stratégique.
Defensa de la
nación. La policía está en la defensa estratégica.
Ustedes. Voilà, c'est eux qui sont dans une défense stratégique utilisée.
Por eso hay represión, por eso hay criminalización.
Et c'est à cause de ça qu'il y a la répression aussi.
Porque somos nosotras y nosotros los que estamos defendiendo la tierra.
Parce que sont elles et eux ceux qui défendent la terre.
Merci beaucoup. Merci, thank you.
Je vais m'efforcer de le faire en français. J'espère qu'on va être à la hauteur. Je m'appelle Juan Pablo Gutiérrez et viens de terres qui se connaissent aujourd'hui sous le nom de la Colombie, dans le bloc continental Bella Biajala, connu sous le nom de l'Amérique actuellement. Un pays magnifique, rempli de contrastes et de paradoxes. Parce que d'un côté, nous sommes le deuxième pays le plus biodivers du monde, avec le plus de biodiversité au monde, avec 115 peuples autochtones. Et quand je parle de peuples autochtones, en l'occurrence, ce n'est pas des communautés qui habitent par-ci par-là, non, c'est 115 univers, 115 cosmos, 115 manières différentes d'interpréter le phénomène du monde, 115 langues, et qui sont reconnues comme telles dans le texte constitutionnel et reconnues comme peuple à l'intérieur de la République colombienne, comme existant avant la constitution de la Colombie en tant que République. Et ça, c'est un privilège dans ce monde monotone et écrasé par le rouleau compresseur de la modernité, avec une seule manière de comprendre, d'interpréter le monde depuis le rationalisme et la science comme seule voie pour comprendre le monde et la vérité. La Colombie, c'est un pays qui regorge de ce qu'on appelle ici des ressources naturelles. Et cette biodiversité dont je vous parle, qui est la deuxième la plus nombreuse au monde, elle ne se trouve pas ni à Bogota, la capitale, ni à Cali, ni à Medellín, mais dans les territoires de ces peuples dont je viens de vous parler, des peuples autochtones. Et quand je vous disais au départ que c'est un pays rempli de paradoxes et de contrastes, en même temps qu'on est le deuxième pays le plus biodivers au monde, on est en même temps le pays du monde où on assassine le plus les personnes qui défendent cette biodiversité. Depuis, on a le record depuis plus de 50 ans, je pense. Le dernier rapport de Global Witness de l'année dernière l'a encore ratifié. Et pourquoi ? Pourquoi on assassine tellement les personnes qui défendent ça ? Ben il ne faut pas être un érudit pour savoir que nous sommes gouvernés, malheureusement pour l'instant, par un monde capitaliste, néolibéral, colonial, qui dépend de ses ressources pour faire fonctionner la machine, le progrès qu'on appelle, non ? Pour faire marcher la réalité qui se conçoit comme normale dans les sociétés du Nord. C'est-à-dire pour qu'il y ait du pétrole, pour qu'il y ait du coltan pour fabriquer ça, pour toutes les matières premières, pour qu'il y ait l'uranium, pour qu'il y ait tout ce qui constitue la vie qu'on croit normale. Mais en réalité, c'est le reflet de cette logique colonialiste. Alors nous, les peuples autochtones, depuis plus de 5 siècles, on porte le poids de l'intérêt global pour cette biodiversité qu'il y a dans nos territoires pour pouvoir faire marcher le système, pour pouvoir garantir la vie normale des sociétés du Nord et surtout pour pouvoir garantir ce qu'on appelle le progrès. C'est le nom sous lequel on a positionné le mot colonialisme plus récemment, mais c'est la même chose. Alors la lutte, elle est immense parce que bien sûr qu'on défend nos territoires, bien sûr qu'on lutte, et c'est pour ça que d'ailleurs on est là, assis, encore aujourd'hui. Mais c'est une lutte de David contre Goliath parce qu'on est totalement diabolisé localement. Ils disent c'est les freins contre le progrès. C'est eux qui empêchent le développement du pays. Déjà localement. Et à échelle globale, c'est encore pire. On nous a toujours traités des sauvages, les barbares, les incivilisés. Et en ce moment, je dis, les peuples autochtones, nous sommes les 4% de la population mondiale, c'est-à-dire une minorité démographiquement parlant. Mais ces 4% de la population mondiale, aujourd'hui, en 2024, nous avons le 80% de la biodiversité qui reste dans la planète, dans nos territoires. Aujourd'hui, Et ce n'est pas parce qu'on a eu la chance d'avoir les terres les plus riches, c'est parce qu'il y a des systèmes de connaissances, des manières de vivre, des ontologies, des façons de faire société en dehors de des antivaleurs modernes. Et dans ce contexte que nous vivons actuellement de réchauffement climatique, le 4% et le 80% de la biodiversité, dans ce contexte de crise climatique, ça veut dire que toute l'humanité peut encore vivre dans cette planète grâce à ce 4%, tout simplement. Mais la machine capitaliste, elle est encore allumée et cet intérêt pour nos territoires, il est encore là. Face à quoi nous devons, bien évidemment, depuis plus de 5 siècles, nous organiser, résister. En Colombie, nous sommes 115 peuples autochtones différents. Et s'il y a quelque chose qui caractérise les peuples autochtones, contrairement à ce que la conception caricaturale qu'on a faite sur nous, ce qui caractérise les peuples autochtones, c'est la diversité. On n'est pas une entité monolithique, c'est les indigènes, tous les mêmes. Non, ce qui caractérise les peuples autochtones, c'est la diversité. Mais par contre, je peux vous dire ça, j'ai été en Mongolie, au Tibet, au Népal, en Afrique, en Amérique latine, partout, ici, avec le peuple Sami au nord, tous différents. On est tous différents. Mais il y a deux choses qui sont transversales à tous les peuples autochtones, et ça, c'est la clé de la réussite de cette organisation et de cette résistance, de ce processus de lutte qu'on a réussi jusqu'à aujourd'hui, plus de 5 siècles après, et c'est les suivants. Tadam, là, oh là, je vois toutes les têtes en haut. Tous les peuples autochtones du monde, en Afrique, en Amérique latine, partout, il y a deux choses communes, et c'est une vision collective du monde qui se reflète dans tout, dans le quotidien. Et la deuxième, une conscience profonde de la dépendance structurelle de la nature, de la mère terre, de la Pachamama, comme on veut l'appeler, parce que c'est elle qui nous garantit de vivre. Ma fille, à 3 ans, elle pouvait le dire, c'est elle qui nous donne à manger, c'est elle qui nous permet de nous hydrater, c'est elle qui nous permet de respirer. C'est quelque chose que n'importe qui pourrait déduire, mais avoir une conscience profonde de ça, c'est notre mère, parce que c'est elle qui rend possible la vie. Et la mère, on la protège, on la défend, jusqu'à la vie même. Ces deux choses se reflètent dans le processus d'organisation des peuples autochtones en Colombie, 115 peuples autochtones différents, qui ont commencé à se structurer petit à petit. Il y avait une violence extrême contre les peuples autochtones, un héritage colonial. On a toujours été conçu jusqu'à 1991, écoutez bien ça, comme sauvages, comme barbares, à l'intérieur de la Colombie. Et on n'était pas sujet de droit, on n'avait pas de droit. Il y avait même un sport qui consistait à chasser des indigènes comme sport. Et vous n'aviez rien à faire un week-end, on va à tel territoire et on chasse, si vous étiez des chasseurs. Depuis la perspective légale, tuer un cochon sauvage ou tuer à mon grand-père, c'était la même chose. Il n'y avait pas de conséquences légales. Jusqu'en 1991, que la nouvelle constitution est arrivée. Et ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a illuminé les consciences des gouverneurs de l'époque, mais c'est le produit d'une lutte farouche et déterminée des peuples autochtones depuis plus de 5 siècles pour se faire reconnaître comme sujet de droit, et au-delà du sujet folklorique, exotique, essentialisé, romantique qu'on a fait de nous, vraiment comme des sujets politiques qui avons une agenda de lutte et de résistance contre ce système que vous êtes en train d'essayer de battre actuellement. Nous avons 100 siècles d'avance qui pourrions peut-être contribuer à quelque chose, et dans ce monde, on a réussi, on a conquis, on est entré dans la constitution, mais ça n'a pas été gratuit, ça a été le fruit de la mobilisation, de la résistance déterminée. Et à chaque fois ici en France, on me dit, sois direct, il faut s'armer, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je dis, bien sûr que oui, il faut s'armer de l'arme la plus létale qui existe et qui est celle qu'on a toujours portée sur nous, qui est la détermination. Il n'y a pas d'arme plus forte, létale, que la détermination d'un peuple convaincu
de son pouvoir transformateur, constitué dans un pouvoir qui devient inarrêtable, comme une rivière qui ne peut pas être freinée par aucune autorité. Et l'unité des peuples autochtones, c'est la clé de cette résistance qui, malgré être le 4% de la population, malgré avoir l'intérêt du 96% de la population colombienne et du reste du monde sur nos territoires, on est encore là. Parce qu'il y a l'unité. Et quand on lutte en unité, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas le risque de souffrir de ce que j'ai trouvé ici, l'éco-anxiété, l'éco-dépression, de ce type de maladie, parce que quand on est en collectif, quand on est en communauté, on se pousse. On ne laisse personne derrière. Il n'y a pas de résistance individuelle, il n'y a pas de lutte individuelle. Tout est collectif. Et on est presque inarrêtable. Vous pouvez regarder des vidéos sur Internet où il y a des groupes paramilitaires dans mon territoire. C'est le seul territoire où les peuples autochtones n'ont jamais... Le seul territoire des peuples autochtones que les groupes paramilitaires n'ont pas pu accéder. Une fois, ils ont essayé et 2000 Yupas sont descendus à la partie basse. Ils étaient en train d'essayer de monter. Ils sont tous descendus. Femmes, hommes, grands-parents, bébés, comme Manuela avec ses enfants, etc. On s'est mis là, on va se faire tuer tous, mais vous n'entrez pas dans notre territoire. Et il y a une photo des paramilitaires avec des fusils AK-47, des tueurs les pires qui existent en Colombie. Certains qui pleuraient de l'impuissance, de ne pas pouvoir... C'était impossible. Et d'un autre côté, un peuple totalement convaincu de les sortir. Ils ont dit, si on nous tue, on nous tue tous. Et en haut, il y a des personnes qui sont restées au naissance des rivières, avec notre plainte pour pêcher qui empoisonne un peu les courants d'eau, pas totalement, mais un peu, pour empoisonner toute la rivière, et on va faire tuer tout le monde qui dépend des rivières d'ici dans les villes, tout le monde. C'est-à-dire que vous nous tuez, nous, mais en même temps, vous allez tuer toutes les personnes des villes environnantes. Le seul peuple autochtone où les groupes paramilitaires en Colombie ne sont jamais entrés, le peuple du Yupa. Armé avec quelque chose qui s'appelle la détermination, qui est quelque chose d'inarrêtable, et ça a un pouvoir immense. La conscience d'un peuple armé de cette conscience, de ce pouvoir, c'est la clé des peuples autochtones. Si un jour, et je finis avec ça, vous avez l'opportunité de venir chez moi, malheureusement, nous avons encore beaucoup de problèmes, je suis exilé ici depuis 5 ans parce que les groupes paramilitaires ont essayé de me tuer, 16 impacts de balles dans ma voiture, avec ma fille de 2 ans. On a une mine de charbon qui exploite notre territoire, c'est notre accord, qui mesure 5 et 3 fois la taille de la ville de Paris. Et qui a exporté le charbon à EDF pour produire l'électricité, pour produire le chauffage en France et qui actuellement continue à l'emporter en Allemagne pour garantir la vie normale. Il y a beaucoup de problèmes encore. Si un jour vous venez chez moi, vous allez voir qu'à partir de minuit, on se couche vers 8 heures parce que le soleil tombe, on s'endort, et vers minuit on se réveille toujours parce que là-bas, un petit bébé qui commence à pleurer, mais en fait c'est pas quelque chose de hasard, après pas un autre, pas. Et c'est une symphonie de pleurs d'enfants, c'est une symphonie de la mort, c'est une symphonie de la terreur d'enfants qui, au deuxième pays le plus biodivers au monde, se réveillent au milieu de la nuit en sentant la faim physique, mort de faim. Ils ont faim parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux pour chasser, parce que les rivières ont été contaminées, etc. Et c'est pour ça que nous sommes là, et que moi je suis là, au nom du peuple du Yupa, pour vous dire, souvent on me dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le peuple du Yupa? Il n'y a pas de geste plus éloquent de solidarité que vous puissiez avoir ici, et c'est de vous armer avec détermination et commencer à lutter pour de vrai. Merci beaucoup.
Juan Pablo. Avant de laisser la parole à notre camarade du Mexique, je demande de rappeler quelque chose.
Ton nom est... Il s'appelle
Isaguié.
Soy mujer indígena zapoteca del istmo de, bueno, de Juchitán de Zaragoza.
Elle c'est une femme indigène zapoteca
de la région de l'istmo de Tehuantepec.
Ça c'est sa région.
bueno, que está en, pues, en el estado de Oaxaca en México, ¿no?
Y se trouve dans l'état de Oaxaca en México.
Estamos actualmente luchando contra, bueno, son muchísimos megaproyectos con los que hemos estado en la región peleando.
Ils sont en train de se battre avec plein de projets qui existent dans la région.
Pero actualmente hay uno que está pues despojando demasiado nuestros territorios y nos asusta todo el monstruo que va a venir.
Et actuellement, il y a un projet qu'ils le tiennent à cœur parce qu'ils sont en train de sortir toutes les terres indigènes.
Que es el corredor interoceánico.
Que c'est le corredor interoceánico.
Que es un megaproyecto, bueno, es un monstruo porque hay muchísimos proyectos en ese megaproyecto.
C'est une espèce de monstre, comme un poulpe, qui a plein de projets autour d'un même projet.
Y este proyecto es un proyecto que ha estado desde años, muchísimos años, que ellos implementar.
C'est un projet que ça fait beaucoup d'années qu'ils essayent de le introduire.
Sin embargo, actualmente, con esta nueva, con este nuevo presidente que tenemos, con lo que ya ha salido,
actuellement avec les nouveaux présidents qui sont
estos proyectos han avanzado muy rápido.
Ces projets ils sont avancés d'une façon terrifiante.
Porque existe toda una legitimización ante estos este presidente.
Parce que ce président légitimise tous ces projets.
Y él agarró un discurso de que quien estuviera en contra de este gobierno que se dice izquierda.
Et il a pris un discours contre les gens qui sont contre ces projets-là.
Pues es de la ultraderecha y está en contra del cambio, está en contra de todo este nuevo pues gobierno que está proponiendo.
Lui, il est contre tous ces projets-là. Et non, pardon, il est pour tous ces projets-là. Contre les gens qui sont contre ces projets.
Y entonces México empieza a borrarse de la situación de violencia que vivimos los defensores y defensoras.
A borrarse.
México se empieza a borrar, ¿no? Empieza como a desaparecer de esta situación de violencia que existe contra los defensores y defensoras. ¿Sí? ¿Cómo desaparecer? No sé.
¿Me ayuda, hermano?
Et du coup, les narratives autour de la lutte commencent à disparaître petit à petit.
La part...